Nate a parlé de, voilà, de l'armistice, le 11 novembre. Et c'est vrai, quand on voit, enfin, quand on pense un peu au 11 novembre, en fait, on célèbre l'armistice. 14-18, ça fait quoi, 100 ans? C'était censé être la dernière guerre. Et moins de 30 ans plus tard, il y a eu encore une deuxième guerre mondiale. Et je crois que c'est le maréchal Foch qui disait, comme la première guerre était tellement moche, que les hommes sont trop stupides, seraient trop stupides pour recommencer une nouvelle guerre. Et quelques temps plus tard, vous avez vu, moins de 30 ans, la Seconde Guerre mondiale a encore embrasé le monde. Tout ça nous montre l'incapacité de l'homme à pacifier le monde et le besoin de l'homme d'un sauveur. Parce que l'homme de lui-même ne peut se sauver. L'homme de lui-même ne peut sauver ce monde. Parce que l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Et si Dieu n'intervient pas dans la vie de l'homme, aucun homme ne peut être sauvé. Et nous réalisons la grâce que nous avons d'appartenir au Seigneur Jésus, parce que d'incapable, il nous a rendus capables d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin dans le livre de Colossiens, où Paul invite les Colossiens à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans leur vie, pour ce que Dieu est. Et nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie et ce qu'il est dans notre vie. Et l'église de Colosse, comme on a vu la dernière fois, c'était une petite ville, hein, dans la Turquie actuelle, qui était, voilà, que l'état général de l'assemblée était très bon, comme le montre le début du livre de Colossiens. L'apôtre Paul reconnaît tout le travail de la grâce de Dieu qui entretenait chez les Colossiens la foi, l'amour et l'espérance. Mais il y avait aussi des faux docteurs qui essayaient de propager parmi eux des erreurs dangereuses. D'un côté, des faux docteurs étaient aussi des judaïsants qui voulaient imposer les ordonnances de la loi aux chrétiens. Mais de l'autre côté, sous le couvert de différentes philosophies, grecques, égyptiennes, perses et hindoues, ils propageaient des idées gnostiques. Ce mot, c'est un mot savant qui vient du grec, qui veut dire gnosis, qui veut dire la connaissance ou science. Hein, c'est rien de très compliqué. Hein, vous pourrez sortir ça au cours d'un repas, gnosis. Bon. Comme ça fera la conversation. En fait, ils accordaient aux anges une puissance excessive dans le monde invisible, alors qu'ils rabaissaient la personne de Christ au rang inférieur d'une créature. Ils osaient ainsi nier même sa prérogative et ses gloires de Dieu créateur. Ils affirmaient que la matière est la vraie source du mal dans le monde. Par suite, ils niaient que la création soit l'œuvre de Dieu. Pour se libérer de la nature mauvaise, il fallait se soumettre à un ascétisme, toujours un petit mot savant, ensemble de règles ayant pour objet de libérer l'esprit de l'homme par le mépris du corps, auquel on impose des exercices, de pénitence, de privation et de mortification, poussés à l'extrême. C'est dans ce contexte que Paul écrit aux Colossiens. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, païen dans le sens biblique, ça veut dire non-juif, hein. Ce n'est pas un gros mot. Hein, ça veut juste dire, comme les juifs disent, les goyim, ben, c'est les non-juifs. Donc c'est dans ce contexte que Paul va écrire aux Colossiens, après avoir prié pour demander la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu, ce qui devrait leur permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur. Dans la deuxième partie de sa lettre, il les invite à rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir à partir du verset 12. Je vais lire, après, on va prier, si vous voulez bien. Bon, si vous ne voulez pas, faites quand même un petit effort. On n'en a pas pour longtemps, donc supportez-moi un petit peu. Hein. Donc, après, voilà. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, pas presque tout, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
On va prier, et après, on va parler un petit peu. Ah oui, il y a le micro. Seigneur, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et qui est une lumière sur notre sentier. Nous prions vraiment que tu nous donnes de comprendre ta parole, de la garder, de la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Donne-nous, Seigneur, vraiment de grandir dans la connaissance de ta personne. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc maintenant que je réalise qu'il y a vraiment un micro, donc je vais faire l'effort de parler dans le micro. Donc je disais, c'est dans ce contexte, Paul, il écrit à l'église de Colossiens. Donc voilà, il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi des mauvaises choses qui se passaient. Et Paul, apôtre des païens, hein, c'est aussi le rôle de l'apôtre, garant hein, des Écritures, garant de la véracité des Écritures, va envoyer un courrier, une épître à l'église de Colosse. Et le texte, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, il nous a rendu capable. Si le texte commence par il nous a rendu capable, c'est que d'une part, nous étions incapables. Dieu ne nous a pas rendu capable parce que nous étions capables. Il nous a rendu capable parce que nous étions incapables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, notre héritage en Christ est grand et magnifique. Si aujourd'hui nous pouvons parler d'héritage en Christ, cela n'a pas toujours été le cas. C'est ce que nous allons voir au cours de cette étude. Paul nous invite à rendre grâce avec joie. Pour quelles raisons? Premièrement, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus a fait. Il nous a d'abord rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendu capable parce que nous étions, comme je disais tout à l'heure, incapables d'avoir part à l'héritage des saints. Pourquoi? Parce que notre nature adamique, oui ça, notre nature adamique, corrompue par le péché, était incapable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, excusez-moi. Notre nature adamique, je disais, corrompue par le péché, ne se soumet pas à Dieu, en fait. Elle est incapable d'obéir à Dieu. Quand bien même on voudrait faire la volonté de Dieu, l'homme est impossible, l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. Il est incapable de se soumettre à Dieu. Et ce texte nous montre, en nous disant qu'il nous a rendus capables. On était incapable de faire la volonté de Dieu. Pour comprendre cette incapacité, il est important que nous fassions un petit tour dans Genèse vite fait. Genèse 2,
au chapitre 15. Ok. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Ça, c'est important. Voici le commandement que Dieu donne à l'homme. Il place dans le jardin et dit, tu pourras tout manger sauf ce fruit-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, c'est un commandement que Dieu donne à l'homme. Et vous connaissez, on ne va pas lire tout le chapitre. Et je vous amène directement au chapitre 3. Hein, si vous voulez connaître la suite, vous pouvez lire. Hein. Comme aujourd'hui, on n'a pas tout le temps, on n'a pas beaucoup de temps. On va pas, voilà. Genèse 3, à partir du
premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ?
Dieu a-t-il réellement dit ?
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger.
Souvent, hein, les conversations font ouvrir, on voit, les yeux s'ouvrent, on voit des belles choses, des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Hein. Vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, hein, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures, bon, etc. Je passe cette partie-là. On voit l'homme et sa femme allèrent se cacher. Ils sont des dieux, mais ils courent se cacher. Devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. »
En fait, Dieu pose la question, « Où es-tu ? » Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où il était. Dieu est Dieu. Hein, Dieu sait tout. En fait, Dieu dit « Où es-tu ?» parce qu'ils sont morts. Spirituellement, Adam et Ève sont morts. La relation qu'ils avaient avec Dieu, par cette désobéissance, va amener cette mort spirituelle. « Où es-tu ?» Il répondit « Voilà, j'ai ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. » Et on voit quelque chose, le désir de péché, c'est quelque chose qui est d'abord personnel. Deux personnes. Okay? Deux personnes vont décider de faire commettre un acte et qui aura des conséquences sur toute une humanité. Comme disait Todd la dernière fois, Acan a fait un péché. Le désir de péché d'Acan était personnel. Mais les conséquences du péché ne sont pas toujours personnelles. Acan a péché, mais c'est une bonne partie du peuple d'Israël qui est mort à cause du péché d'un seul homme. On avait dit de ne pas prendre, lui décide de prendre. Les conséquences du péché ont toujours des effets négatifs sur nous, mais aussi sur notre entourage. Je me rappelle un jour, j'attendais le tram, j'allais travailler. Quelqu'un décide de griller le feu. Enfin, le chauffeur, je ne sais pas si c'est le chauffeur du tram ou le chauffeur de la voiture. En fait, un des deux a grillé un feu. Au final, accident. Moi qui attendais mon tram tranquillement, je n'ai pas grillé le feu, mais je me retrouve victime des erreurs de deux personnes, enfin d'une personne. L'histoire d'un homme concerne beaucoup d'hommes. Le péché d'Adam et Ève va entraîner toute l'humanité à sa chute. Vous comprenez? Et toute l'humanité, à cause de cette désobéissance, va rentrer dans une révolte contre Dieu. Et je vais juste aller au verset 23-24 du livre Genèse, du chapitre 3. L'Éternel, Dieu dit à Adam et à sa femme, fit des habits à sa femme de peau, dont il les revêtit. L'Éternel, Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie et en manger. Et vive éternellement, l'Éternel le renvoya du jardin,
d'Éden pour qu'il cultive le sol où il avait été chassé. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et les flammes des pétournois pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Donc, conséquence du péché, ils vont être chassés. Ils ont désobéi, ils ne peuvent plus rester dans la présence de Dieu. Chassés du jardin. C'est terrible. Hein? Juste un fruit. Conséquence terrible. Le diable, lui, s'en sort bien. Il dit, voilà, mange le fruit, vous serez comme des dieux. Au lieu d'être des dieux, ils sont chassés du jardin. Privés de Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché a des conséquences sur toute une communauté. C'est un homme, une femme qui décide de faire un péché, de commettre un péché. Mais c'est toute une communauté qui subit les conséquences. Adam était le représentant d'une espèce. Toute l'espèce humaine va en pâtir du péché de deux personnes. Et ils vont vivre ce que Pierre dit dans 2 Pierre. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Ils vont devenir esclaves du diable. Ils vont devenir ses esclaves. Tout ce qu'ils vont faire vont être inspirés par ses puissances. Cette désobéissance aura plusieurs conséquences dans la vie de l'homme. On va revenir dans le livre de Colossiens. La désobéissance de l'homme, au premier verset, voilà. Verset 13 va nous dire dominé
par les puissances de ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils.
On va être délivré. En fait, les conséquences du péché vont faire quoi? Que l'homme va être dominé. Dominé par le péché. Et c'est pour ça quand Paul dit « Il nous a délivrés » parce qu'il n'était pas libre. Parce que nous n'étions pas libres, nous étions captifs du péché. Et en cela, nous avions besoin qu'on nous délivre. Et toutes nos actions étaient gouvernées par celui qui domine sur nous. Bien qu'on pensait être libre, nos actions étaient conduites par les puissances des ténèbres. Au verset 21 du livre de Colossiens, Paul dit « On était étrangers ».
Vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres.
Les péchés. Étrangers, ça veut dire que Dieu ne nous connaissait pas. Ennemis de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on méritait, c'était la colère de Dieu. Et en Romains 8, Paul nous explique un peu qui est l'homme. Romains 8 à partir du verset 5. Voilà.
En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est incapable.
Même si la chair voulait se soumettre, la chair c'est quoi? C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, c'est le propre de l'homme qui n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu. C'est l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Et cet homme-là, comme Paul parle aux Corinthiens, l'homme naturel, l'homme animal, qui est conduit par ses pulsions, elle ne se soumet pas à Dieu. Et même si elle voulait se soumettre à Dieu, elle en serait incapable. Parce que les tendances de la chair, l'affection de la chair, est inimitié contre Dieu. Elle s'oppose naturellement à Dieu. Elle ne veut pas se soumettre. Et Paul dit, voilà, on était dominés, on était ennemis de Dieu, privés, privé du droit de citer dans d'autres épîtres. Ce que la chair affectionne, sa nature, c'est de s'opposer à Dieu. Nous devons comprendre que toute tentative humaine pour essayer de plaire à Dieu ou de s'approcher de lui par la philosophie, la religion, enfin plein de choses, en fait, c'est voué à l'échec. Parce que la nature humaine s'oppose à Dieu. Elle ne peut pas. Même si elle voulait bien, elle ne pourrait pas, puisque sa nature s'oppose à Dieu. Et la chair ne peut pas se sanctifier. Elle ne peut pas s'améliorer. S'il n'y a pas une véritable transformation de l'Esprit de Dieu, la chair ne peut pas s'améliorer. On a vu 14-18, ils se sont dit, ouais, c'est la dernière des dernières, il n'y aura plus. 39-45, et depuis, on peut compter les guerres, pas les guerres mondiales, des guerres qui ont eu lieu. Et souvent, ils ressortent, plus jamais ça. L'homme ne peut pas faire des déclarations comme ça. Parce qu'il n'est qu'un souffle. Et avant, à un moment, j'ai quitté l'église et je voyais certains chrétiens, des fois, qui avaient une vie. Bon, je ne voulais pas leur ressembler. Et je me disais, je vais essayer de m'améliorer pour retourner à l'église. Quand je serai vraiment bien, je pourrai retourner et aller me faire baptiser. Parce que j'avais une conception, voilà. Il faut vraiment être parfait pour se faire baptiser, machin. Et plus j'essayais de faire des efforts par moi-même pour être un gars bien, je devenais un gars minable. Vraiment, je n'y arrivais vraiment pas. Et pourtant, j'essayais, je mettais tout mon cœur, parce que je voulais être quelqu'un de bien, quelqu'un, voilà, qui ne ment pas, quelqu'un de correct. Mais il y a des occasions où tu, pour te sauver la face, où tu mens. Mais je me sentais coupable. Et je voulais de tout mon cœur, en fait, essayer de plaire à Dieu, parce que j'avais cette connaissance de Dieu où, voilà, où ce que je savais ce que Dieu attendait, mais j'essayais par moi-même d'être agréable à Dieu, mais j'en étais incapable jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre c'est moi qui rends capable, c'est pas par ta propre force. Et quand j'ai compris ça, ça a été une grande source de joie, parce que je voyais que Dieu lui-même me rendait capable. Et Paul dit aux Colossiens, vous étiez incapables. Mais Dieu, par Jésus-Christ, nous a rendus capables. Et l'homme sans Dieu a une vie vraiment misérable. Bien qu'il pense être bien, mais c'est vraiment le soir, quand il est face à lui-même. En fait, il est misérable. Il essaie de s'en sortir, mais il n'y arrive pas. Même s'il a toutes les richesses du monde. Il est obligé de faire de plein de barricades pour se protéger, pour protéger sa richesse, parce qu'il n'a pas la paix. Il essaye. Et Oscar Wilde, un écrivain irlandais du 19e siècle, va dire ceci, la seule façon, le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Essayez de lui résister, et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle... C'est défendu. Ça, c'est Oscar Wilde. C'est un homme qui vivait bien. Sans doute, je ne connais pas beaucoup de choses de la vie d'Oscar Wilde. Mais il a sans doute essayé de s'en sortir par lui-même. Mais elle a réalisé que la nature humaine va à l'encontre de Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas la liberté que donne le Saint-Esprit de te libérer du péché. Et le texte nous dit qu'en fait, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, Jésus, il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer de la puissance des ténèbres. Je ne sais pas quels sont les combats que nous avons, mais nous devons réaliser que Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est suffisamment puissant pour nous délivrer. Et l'homme sans Dieu est voué à l'échec. Et face à cette incapacité de l'homme à obéir à Dieu, à hériter de lui, Dieu va nous envoyer son Fils Jésus qui va nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints. Qu'est-ce que c'est d'avoir part à l'héritage des saints? C'est de vivre dans le royaume de Dieu. De vivre dans le royaume de son Fils. On peut revenir à Colossiens. En fait, c'est de pouvoir au verset 13. C'est de vivre dans le royaume de son Fils.
La Bible nous dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
La chute de l'homme, Dieu va le chasser du jardin.
La délivrance de Jésus, il va être transporté. Il va être ramené dans la présence de Dieu. Après avoir été chassé à cause du péché, Dieu envoie son Fils qui va nous délivrer et qui va nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous étions sans Dieu, privés du droit de citer en Israël. Mais par Jésus, nous devenons capables de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. Parce que nous avons été délivrés du péché. Parce que nous avons été rachetés et pardonnés au verset 14. En qui nous avons la rédemption, le rachat. Dieu nous a rachetés. Le pardon des péchés. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Nous pouvons dire, tu es mon Père. Parce que nous avons été rachetés. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus destinés à la colère de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Et l'église de Colosse, qui avait reçu le véritable évangile, va être confronté à des faux frères, des gens qui introduisent des choses bizarres pour ramener les gens dans la servitude, alors que Dieu les a délivrés. Et Paul leur dit au verset 21 que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés, nous pouvons nous réjouir dans la présence de Dieu. Et nous voyons en fait qu'il y a beaucoup de raisons de nous réjouir, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il nous a rachetés, il nous a sauvés. Et Paul rappelle aussi aux Colossiens que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pendant que d'autres cherchaient à amoindrir le rôle de Jésus, qui est Jésus, Paul leur rappelle que Jésus est l'image de Dieu. Jésus est Dieu. Il est le premier-né de toute chose. Cela veut dire qu'il est le point de départ de toute chose. Qu'il n'y a rien en dehors de Jésus. Restez attachés au véritable évangile. Restez attachés à Christ. Face à un monde qui nous guette, à un monde qui essaie de nous attirer, Paul leur dit de rester attachés à l'espérance que donne l'évangile. Et au verset 16-17, il dit, il est le Tout-Puissant. Il a tout pouvoir. C'est lui qui a tout créé. Il est le Seigneur, il est le chef de l'Église, il a autorité sur toute chose. Jésus est le chef de l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Donc si on veut vivre dans l'Église, on doit connaître ce que dit le chef de l'Église. On doit connaître sa parole et ce que dit le chef de l'Église se trouve dans sa parole. Enfin, on peut trouver des gens qui disent, bon, moi, l'Église, bon, c'est bon, j'y vais, mais j'ai envie de faire ma vie. Non, en fait, on se trompe. Parce que l'Église a un chef, c'est Jésus. Et vivre dans l'Église, c'est se soumettre à ce que Jésus dit. Le pasteur, il est là pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Bon, c'est dommage si le pasteur nous court après. Bon, il peut courir après nous, parce qu'il nous aime. Mais le chef de l'Église, c'est Jésus. Ne cherchons pas à aller... Voilà. Il a un chef, l'Église. Enfin, l'Église a un chef. Et c'est Jésus. Il est... La Bible dit, il est la tête du corps. La tête, c'est du grec képhalé, bon. Chef. Il y a le chef, c'est Jésus. On veut rester dans l'Église, on veut plaire à Dieu. Il faut se soumettre à ce que Jésus dit. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Tu aimes l'Église? Oui, mais j'aime pas Jésus. C'est qu'il y a un problème.
Comment tu peux aimer Jésus et ne pas aimer l'Église, puisque l'Église, puisque c'est le corps de Jésus? Et c'est pour ça que la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu et haïr ton frère que tu vois? En fait, tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton frère, ce n'est pas possible. Il faut qu'on reste attaché à l'Évangile, parce que l'Évangile donne l'espérance. Et l'espérance aujourd'hui, dans le contexte où, enfin, aujourd'hui, quand on parle d'espérance, on pense que c'est quelque chose d'abstrait. Bon, on compare ça à l'espoir. À l'époque biblique, l'espérance était une certitude. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai cette certitude qu'un jour, au son de la dernière trompette, que je partirai. Et si, bon, entre-temps, je suis parti, je suis mort, au son de cette trompette, je vais ressusciter. C'est une certitude. Mais le micro, du coup, me fait parler fort. Christ, comme dit Paul, va dire plus loin, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous portons en nous cette semence, cette certitude, cette assurance qu'un jour, Jésus-Christ viendra nous chercher. Et en attendant, restons attachés à l'Évangile, ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas enfumer, moi j'appelle ça souvent de l'enfumage, à ce que la philosophie pourrait nous apporter quelque chose de mieux. Non, c'est une science humaine, et toute science humaine conduit à la mort. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, même si elle le voulait. Donc toute science qui émane de cette chair humaine est vouée à l'échec. Jésus est sauveur. Il nous a transportés. Nous avons été chassés dans la Genèse, mais nous voyons dans Colossiens que Jésus nous ramène dans le royaume de Dieu. Et on voit dans Apocalypse, il y a une fête. Faisons tout pour participer à cette fête. Nous avons cette assurance que nous ferons partie de cette fête. Mais en attendant, attachons-nous à Dieu. Et face à certaines situations, je vais finir. Face à certaines situations qui peuvent être difficiles, nous avons besoin de nous rappeler qui est Jésus. Jésus, quand on regarde aujourd'hui les crèches de Noël, on voit un petit enfant. Mais je suis désolé, Jésus, c'est plus le petit enfant. Il a grandi. La preuve, c'est que dans Apocalypse, quand Jean voit Jésus glorifié, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le grand vainqueur. Jean, le pote de Jésus, la Bible nous dit que Jean est tombé comme mort. Parce que c'était plus le même Jésus. C'était un Jésus glorifié. Le Jésus qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu. Et qui intercède pour nous, la Bible nous dit. Face à certaines situations dans notre vie, nous avons besoin de nous rappeler qui est Jésus. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Et il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Bon, ça, je vous le dis, vous le savez. On est tous chrétiens. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Et on ne peut pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Le monde moderne nous fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Le monde moderne, c'est une société qui se divinise, où l'homme est Dieu. Cette parole que le diable avait dit dans Genèse, vous serez comme Dieu. Où l'homme se divinise. Mais la vérité, c'est faux. L'homme n'est pas Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu, mais nous voyons que la condition misérable de l'homme sans Dieu. Et Le monde moderne nous fait croire que pour vivre, on a besoin de suivre nos propres règles. Mais c'est faux. L'Église a un chef, c'est Jésus. Si on veut rester dans l'Église, si on veut avoir part à cet héritage, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous devons reconnaître le chef de l'Église comme Sauveur et Seigneur. Et Proverbe 14, 12 dit ceci. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. On peut penser, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, qu'on est sur une bonne route. Mais la Bible nous dit à la fin de cette route, c'est la mort qui s'y trouve. Donc, si il y a parmi nous des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, comme dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez à l'appel du Seigneur. Et Acte 4, verset 12 nous dit ceci. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Paul rappelle aux Colossiens que Jésus, c'est le chemin. Rendons grâce parce qu'il est à Jésus, parce qu'il est Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il a fait dans notre vie, parce qu'il nous a délivrés. Nous ne sommes plus esclaves du péché. On peut dire non au péché. Avant, on ne pouvait pas. On était guidé par nos pulsions, mais par Jésus, on peut dire non. Je ne veux pas. Avant, c'était impossible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Parce que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus sujets à nos pulsions. Tu peux ne pas insulter ton collègue parce qu'il t'a insulté. Avant, ça sortait naturellement. Mais aujourd'hui, tu sens la mayonnaise monter, mais l'Esprit de Dieu te dit non. Tu peux dire non. Mais Seigneur, Jésus dit non. Et comme Jésus est le chef, tu dis d'accord. D'accord, chef. Il est Seigneur. Il nous a délivrés. Et nous sommes capables d'avoir part à l'héritage de Dieu. On peut se tenir dans la présence de Dieu aujourd'hui. Mais, parce que Jésus nous a délivrés. On peut hériter de lui. On a l'assurance de notre salut. Parce que Jésus est dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Hein, ce n'est pas satisfait ou remboursé. Comme on a vu tout à l'heure, on aura des difficultés. Mais nous avons l'assurance que Dieu est capable de nous délivrer. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on vit. Jésus est Seigneur. Il est le grand vainqueur, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu devant lequel nous dit la Bible. Toute montagne fonde comme de la cire. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Toute montagne fonde comme de la cire devant Dieu. Waouh, ça c'est puissant. Puisse Dieu toucher votre vie. Puisse Dieu vous restaurer dans ce que vous pouvez vivre aujourd'hui ou demain. Parce qu'il est le seul capable de vous donner la paix. C'est pas comme... Nos amis américains qui nous donnent la paix après avoir tué tout le monde. Pas tous, hein? Non, c'est pas que comme ça. C'est pas comme ça. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est face à une multitude de difficultés. Tu ne comprends pas, mais tu es en paix. Tu as l'assurance qu'il va se passer quelque chose, mais tu vois arriver les ennemis de toutes parts. Tu n'as aucune solution, mais tout le monde te dit, mais tu es fou. Non, tu n'es pas fou. Enfin, si, tu es un fou de Jésus, en fait. Mais Dieu te donne la paix, peu importe les situations qui t'oppressent, mais tu as cette assurance qu'il est là et il ne t'abandonnera pas.